Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je reçois le père Ephrem Hazard. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous êtes né à Caracoche dans la province de Ninive, Mossoul. Vous êtes prêtre, vous exercez à Paris aussi le métier de psychothérapeute. Vous avez récemment fondé une association qui s'appelle Entre deux Rives, dont la mission est d'apporter une aide aux réfugiés en Irak et d'y retisser des liens rompus entre les différentes communautés religieuses. Comment vous est venue cette idée ?
C'est suite donc à l'invasion de la plaine de Ninive par Daesh, la nuit du 6 au 7 août 2014, alors que j'avais programmé pour ma vie de cesser mon activité et d'aller sur la route de la soie ou Saint-Jacques. Mais c'était plutôt la route de la soie parce que c'est pour retrouver aussi nos racines, la transmission de cette chrétienté, surtout les Nestoriens qui sont allés en missionnaire jusqu'en Chine. Donc du coup, j'ai entendu une voix intérieure qui me dit « Non, c'est pas possible pour le moment, c'est le temps d'être solidaire de mon peuple. » Et d'ailleurs, tout de suite, je suis allé au Kurdistan irakien, début septembre, juste après la crise, et c'est là que j'ai vu toute la misère et la détresse, aussi bien de ma famille, de mon peuple et surtout cette communauté yézidi, parce que cette communauté, je les ai connus comme jeunes prêtres entre 72 et 76.
Vous avez exercé votre ministère au Sinjar, je crois.
Au début, oui, et comme prof au séminaire, mais aller tous les week-ends à Sinjar, cette ville, ou Shingal en kurde, où cette communauté a subi beaucoup de, bien sûr, de pression et beaucoup de femmes qui ont été violées et de beaucoup d'enfants qui sont morts sur cette montagne aride de Sinjar, voilà.
L'association s'appelle donc Entre deux Rives, Passerelle Occident-Orient.
France-Orient.
France-Orient,
oui. Alors j'ai pris ce titre-là d'abord parce que j'appartiens à double culture, aussi bien je peux dire arabo-musulmane-chrétienne. Je suis issu de cette culture. Depuis des millénaires, ce christianisme a vécu avec les arabes musulmans. Et aussi, surtout, aussi double culture, je suis aussi bien de cet Orient-là, mais aussi je suis imbibé de cette culture française. Et ça, j'en suis très fier. Alors j'ai voulu donner ce titre-là pour montrer que nous sommes liés, notre sort est lié entre l'Orient et l'Occident, et en même temps servir de passerelle, parce que d'abord, ces chrétiens orientaux se sont on servit justement de passerelle avec l'Occident, avec toute notre culture. C'est d'abord le premier christianisme qui est né là. Ensuite, j'ai évoqué aussi toute cette culture qui remonte aussi bien du début de l'islam grâce à ces savants chrétiens qui sont servis de passerelle pour faire passer la pensée grecque et même la pensée chrétienne vers l'Occident.
Parler des traducteurs, ces
oui,
fameux.
Oui, je dis toujours avec beaucoup d'humour, si saint Thomas d'Aquin a lu Aristote, c'est grâce à ces Syriaques, grâce à ces médecins, grâce à ces traducteurs qui étaient dans la cour des Omeyyades ou la cour des Abbasides.
Donc vous sentez en tant que prêtre syriaque d'aujourd'hui que vous continuez cette tradition ancienne ?
C'est plus que continuer. Je suis lié à cette culture-là et c'est le temps de la transmission qui m'est très importante. Et pour cette association, si de faire une passerelle, c'est aussi actuellement, comme nous avons une allergie du côté chrétien face à l'islam local là-bas, même ici, c'est dommage. Alors que pendant presque 16 siècles, nous avions le même sort, c'était lié le christianisme, cette présence chrétienne dans ces pays-là, on donnait toute cette dynamique spirituelle, politique, culturelle, intellectuelle. Or, priver ces pays-là de cet élément dynamisant, ce n'est pas seulement appauvrir le christianisme, puisque beaucoup de chrétiens quittent, mais surtout, c'est appauvrir l'islam. J'ose dire même que ça sera la fin de l'islam dans ces pays-là.
Mon père, est-ce que vous vous sentez pas un peu seul, prêcheur de paix de cette manière?
Alors, je ne prétends pas avoir une voix prophétique, mais aujourd'hui, le malheur justement de l'Irak chrétien, c'est qu'on n'a plus de cette voix-là prophétique qui dit non, c'est pas possible de ne pas vivre avec l'autre. Peut-être le patriarche Sacco, le chaldéen, je l'apprécie beaucoup parce qu'il a des positions assez claires, il est lucide sur la situation, il est même contre ce fanatisme chrétien qui est en train de naître en Irak. Notamment, par exemple, quand une partie des partis assyriens et d'autres partis chrétiens qui veulent militariser les chrétiens, c'est-à-dire créer une milice chrétienne.
Mais vous êtes contre ça?
Non, mais absolument, mais c'est absurde, ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu ça dans le passé, mais d'accord qu'il y ait des chrétiens.
Les gens peuvent se défendre quand même.
Dans l'armée, ok, pas de problème. Mais qu'il y ait une milice chrétienne, mais ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est toujours d'être cette passerelle de paix, de bonté, de témoigner justement de cette présence. Mais que nous puissions nous défendre, oui.
Mais d'une autre manière.
Oui, d'une autre manière, mais aussi, je dirais, à l'intérieur de l'Irak légal, officiel. À l'intérieur d'un État irakien et non pas se mettre à part contre les autres.
Ma culture et mon éducation, écrivez-vous, se sont construites sur la tolérance et le respect de l'autre. Le dialogue interculturel entre les différentes communautés était le ciment du bien-vivre ensemble qui existait entre les chrétiens, les musulmans et les yézidis. La restauration du dialogue interculturel passe donc par la culture et l'éducation. Ça, c'est le manifeste de votre association Entre deux Rives.
Oui, il me semble que c'est d'abord si notre monde aujourd'hui souffre, et je parle aussi bien d'ici en France actuellement avec cette rigidification, je l'appelle, des identités, l'exclusion, c'est derrière, il me semble, nous manquons, c'est à cause de l'ignorance. Saint Thomas d'Aquin dit « Le grand péché de l'homme, c'est l'ignorance ». Chez les bouddhistes d'ailleurs aussi, puisque j'aime beaucoup cette spiritualité, si j'ose dire, l'être humain est fait pour connaître, l'être humain est fait pour apprendre. Et donc d'abord, si aujourd'hui Daesh, et si le côté chrétien aussi, ici aussi, si la religion dominante se base justement sur le savoir sur l'autre, c'est la destruction de la religion, l'autodestruction. C'est pas possible, ça, pour nous. Je vous dis, dans notre histoire, malgré les vagues dans l'histoire qui ont eu lieu aussi de persécutions, on a connu ça depuis l'Empire perse, la persécution qui a duré 40 ans sous Chabour II. Ensuite, il y en a d'autres, aussi bien plus tard. Mais malgré cela, ce qui est important, c'est que les chrétiens ont joué un rôle important dans la culture et dans le fait de s'ouvrir à l'autre. Que ce soit au XIXe siècle notamment, avec la création du nationalisme arabe, le panarabisme, aussi bien les différentes universités, l'arrivée aussi bien des missionnaires jésuites ou dominicains, n'oubliez pas que les premières imprimeries, c'était des chrétiens qui les ont installées dans cette région-là.
Vous parlez de l'imprimerie de Mossoul,
évidemment, par les dominicains. Absolument. Voilà. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vivre sans l'autre. Et ça ne peut se faire que lorsqu'il y a une culture et une éducation. Le malheur aujourd'hui de l'islam Daesh, pas les autres musulmans, parce que je suis très lié aussi à ce peuple qui a le même destin que nous aujourd'hui dans la région. Leur malheur de Daesh, c'est justement l'ignorance. Lorsque on ignore l'autre, c'est l'exclusion de l'autre. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui.
Alors un autre qui vous intéresse à d'autres égards aussi, c'est, je disais tout à l'heure pour vous présenter, vous êtes prêtre et psychothérapeute. Une double fonction qui est rare, me semble-t-il.
Elle est très rare, Je l'ai faite parce que mon passage au Liban, c'était une vraie descente aux enfers pour moi dans ma vie privée. Car tout ce que j'avais construit en Irak les années 80 s'est écroulé du jour au lendemain suite à des événements aussi bien politiques que religieux. J'étais même menacé parce qu'on sentait l'arrivée du fondamentalisme musulman même à Mossoul. Suite à cela, je me suis retrouvé, après avoir terminé ma thèse à Paris, au Liban, parce que j'estimais que le Liban était pour moi aussi une passerelle, aussi bien pour l'Irak que pour la France. Et c'est là, au fond, je suis descendu au plus bas dans ma vie. Solitude totale. Et je me suis occupé à ce moment-là des cas sociaux au Liban. Et c'est là où j'ai découvert que la blessure de l'autre me renvoie à ma propre blessure. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé même à faire des massages chinois. J'ai appris ça dans le sud de la France. Et parmi mes patients, à un moment, c'était un jeune juif de la Kabbale qui m'a dit, mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je connais un psychiatre qui a une école privée. Ça serait bien si vous... Je l'ai contacté le lendemain. J'ai suivi une formation. C'était difficile, je l'ai suivi, c'était trop dur. Parfois, je rentrais même avec des larmes. Le week-end, je n'arrivais pas à dormir parce que ça a été touché au fond de moi-même. Et ça y est, j'ai fait ça. Au début, c'était difficile avec mes supérieurs, mais j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui. كذلك فرحي هو
كما أن الشمس هي فرح من يطلبون النهار كذلك فرحي هو
كما أن الشمس
avec le père Ephrem Hazard ce matin. Mon père, que venons-nous d'écouter ?
Alors, c'est l'Aude 15, le début, c'est les Audes de Salomon. Donc, c'est un texte que j'ai traduit, un manuscrit syriaque. C'était le thème de ma thèse que j'ai fait à la Sorbonne. Et je traduis « Comme le soleil est une joie pour les quêteurs de son jour, ainsi le Seigneur est ma joie, il est mon soleil, ses rayons m'ont réveillé, sa lumière a dissipé toutes ténèbres de mon visage. » Et c'est en fait, c'est des autres qui sont pleins de cette, je dirais, cette joie. Et c'est pas possible, ça, c'est l'Orient, vous savez. Quand il dit, en fait, parce qu'on dormait sur les terrasses, alors il dit... Le Seigneur est mon soleil, par ses rayons mon réveil. D'ailleurs, il se réveille avec le lever du jour, dans cette, je dirais, cette lumière du jour qui se pointe. Et c'est extraordinaire de dire, voilà, je me réveille avec ces sentiments-là dès le matin.
C'est ce que vous dites à vos patients en tant
Alors,
que psychothérapeute.
Alors, mes patients, non, je leur dis quelque chose de plus important. En vous, il y a un noyau immaculé. Et vous, il y a un potentiel de beauté, de bonté, c'est en vous et c'est pas possible que nous puissions ne pas le faire extraire. Et c'est ça, en fait, on a des couches qui sont venues comme des enveloppes sur ce potentiel et on enlève petit à petit. Alors j'exerce ça, vous savez, au début, certains ne savaient pas que j'étais prêtre. Donc, même si quelqu'un m'a dit, c'était au moment de Noël, est-ce que vous fêtez Noël? J'ai dit oui, bien sûr, vous savez, je pratique un peu. L'autre anecdote, c'est un jeune d'ailleurs, le petit Benjamin. Un jour, il se trouvait avec sa mère en Normandie, et c'était le vendredi saint. Et il est avec sa mère dans l'église et il écoute le prêtre qui est là. Il chuchote à sa mère, maman, maman. On dirait que c'est Ephrem. Donc ça veut dire, ce petit, il a senti, c'est-à-dire dans cette, peut-être cet timbre de la voix, mais peut-être derrière, il a senti cette qualité de présence. Vous voyez, ce que je peux faire simplement, je n'ai aucun savoir sur l'autre, mais nous sommes deux compagnons de route, et c'est ça qui est très beau, parce que le patient est aussi mon thérapeute, parce que c'est lui qui vient frapper à ma porte pour dire aussi, j'ai des zones d'ombre encore à les revisiter, vous voyez. Alors que ça soit des petits, que ça soit surtout des couples, alors souvent les couples sont des couples catholiques, qui, vous savez, à cause de cette culpabilité, sentiment de culpabilité, souffrent beaucoup après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Et alors c'est là où cet accompagnement, je leur dis, c'est maintenant que votre couple est vrai parce que vous commencez à aller vers vous-même. À ce moment-là, nous pouvons faire un chemin ensemble, oui.
Est-ce que vous allez vous nourrir de cette expérience pour votre travail auprès des réfugiés dans le nord de l'Irak?
Alors, c'est certain, vous savez, mon rêve, depuis d'ailleurs à la fin de ma thèse, c'était de fonder un centre spirituel là-bas.
Parce qu'il y a des problèmes psychologiques énormes.
Énormes. Voilà, absolument. Et c'est mon rêve, on va voir les promesses donc, du gouvernement kurde, en même temps des aides qui viennent de mes amis, vont me permettre bientôt, je pense, d'abord de louer peut-être une maison, que ça soit le point de départ, mais aussi surtout, je travaille beaucoup avec les sœurs dominicaines. Donc actuellement, je suis leur assistant religieux, et c'est peut-être grâce à elles, parce que c'est aussi, il faut dire, que ces sœurs ont beaucoup souffert, elles ont tout perdu. Elles avaient beaucoup de couvents, beaucoup d'écoles.
Ces religieuses de Karakoch,
Karakoch,
qui venaient de Mossoul auparavant.
Absolument.
Donc qui ont eu plusieurs exils ces dernières années.
Absolument.
Et elles-mêmes ont besoin de soutien psychologique.
Ont besoin de soutien, et là je vais bientôt. Donc depuis la crise, ça fait au moins plus que 10 fois que je suis allé en Irak. Pratiquement en moyenne, toutes les 6 semaines, je suis là-bas pour 2 semaines à peu près.
Lorsqu'on se rend en Irak et qu'on interroge les gens, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, on a l'impression que le fait de les écouter est déjà un pas vers la guérison.
Oui.
J'ai besoin de parler, de communiquer sur leur drame.
C'est ça, accompagner. Vous savez, c'est d'abord cette empathie, c'est de sentir ce que l'autre vit, ce que l'autre sent. Et les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise sur les dogmes, sur, je dirais, le catéchisme qu'ils ont appris. C'est aujourd'hui comment donner un espoir, une espérance, parce que c'est actuellement le désespoir ronge les chrétiens d'Irak. Parce qu'il y a, nous sommes devant un inconnu obscur. C'est les deux mots souvent que je cite. C'est un inconnu. Supposons qu'il y a un retour, on ne sait pas comment et quand. Et si on rentre, comment on va vivre avec ce qu'il y a sur place? Mais en même temps, c'est obscur parce que tout ce qui a été perdu et en même temps cette blessure avec l'islam local, comment essayer de le guérir, vous voyez? C'est ça. C'est ça, à mon avis, le long travail qui va se faire. Et là, il faut, à mon avis, être des êtres de paix.
Est-ce que vous voulez faire signe à d'autres psychothérapeutes installés en France
qui pourraient
vous accompagner dans cette aventure?
Surtout, non, d'abord des jeunes, à mon avis, parce qu'on aura besoin probablement de restaurer. Si jamais il y a un retour, même s'il n'y a pas un retour, il y a certaines maisons et même des couvents dans le nord de l'Irak, ça serait bien d'abord de les restaurer pour que nous puissions accueillir des jeunes notamment.
Mais restaurer la confiance aussi, la confiance
bien
de ces réfugiés.
Quand je parle justement restaurer une pierre, ce n'est pas ce qu'une pierre. C'est d'abord restaurer l'être humain qui est là. À ce moment-là, c'est de l'aimer, lui dire on est là. C'est pour ça que je n'encourage pas que des chrétiens quittent le Proche-Orient. Et voilà. C'est très important pour moi. Vous savez, c'est très facile aujourd'hui, des familles que je côtoie, soit en Suède, je suis allé récemment à Cologne, je suis allé voir aussi les chrétiens d'Irak, réfugiés au Liban. Je vous assure, c'est question de facilité. D'abord, toutes ces familles-là qui ont quitté ont de l'argent. Ensuite, s'habituer à être assisté, ne rien faire en Occident, c'est tuer l'âme. Donc, je préfère aider les chrétiens là-bas à vivre dans la dignité humaine et avoir les mêmes droits. Et que notre constitution irakienne soit révisée. Et c'est très important pour que tout être musulman ou chrétien trouve dans sa dignité. À ce moment-là, lorsqu'on a ça, je suis certain que c'est le petit reste pauvre qui sauvera l'Irak. C'est comme pour l'exil de Babylone, ça je le mentionne souvent. C'est le grand miracle, l'exil à Babylone, les Juifs qui sont partis à Babylone. Parce que c'est là, d'abord, la Torah est écrite. Ensuite, c'est là où il y a eu, je dirais, Dieu se défait de sa toute-puissance. On découvre qu'il y a les autres. Et ça, c'est, pour moi, c'est très important. C'est ce petit reste-là, qui reste là, même démuni de tout, dépouillé de tout, c'est celui-là qui peut sauver l'Irak pour l'avenir.
Je ne prétends pas à la voix prophétique, mais c'est bien cette voix intérieure qui me rend libre et lucide pour faire le choix de rentrer définitivement au pays. En septembre, je l'espère. Alors un septembre à venir, un nouvel automne peut-être.
Non, mais j'espère, puisque je pars là le 19 juin, d'abord préparer ça. Ensuite, j'ai un autre voyage fin ou début septembre. J'espère que les autorités kurdes ont déjà donné l'autorisation dans ce cas-là. Donc, je serai plus là-bas qu'ici et c'est peut-être une tranche de ma vie qui est importante et peut-être c'est le temps de la transmission.
Alors je tiens à signaler un grand entretien que vous avez donné au Monde de la Bible qui est, je pense, disponible en ce moment dans toutes les bonnes librairies, donc avec Ephrem Hazar ce matin. Et je rappelle Entre deux rives, voilà, on mettra sur le site internet de l'émission les références de cette association. Vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Oui, parce que vous savez, quand vous avez du béton, vous mettez du béton et un an ou deux, vous allez voir l'herbe qui pousse du béton. C'est ainsi la vie. La vie prend le dessus sur la mort. Et c'est lorsqu'on est dans le mouvement que la vie arrive. Donc dans ce sens-là, je suis dans cette dynamique de mouvement en tout cas.
Ce matin, Sébastien de Courtois, chrétien d'Orient, je recevais Ephrem Hazar, religieux dominicain, psychothérapeute et fondateur de l'association Entre deux rives. Je remercie Dany Journeau, Delphine Baudet, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission, émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture. Nous retrouvons Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.